La première question que j'aimerais vous poser, c'est quel est l'événement le plus incroyable auquel vous ayez assisté personnellement ? Quel est l'événement le plus incroyable dont vous avez été vous-même les témoins ? Je vous laisse 10 secondes pour trouver une réponse à cela. Deuxième question. Quel est l'événement le plus incroyable dont vous ayez entendu parler ? Donc là, il ne s'agit pas d'être les témoins de quelque chose, mais d'avoir entendu parler d'un fait extraordinaire. Et troisième question, parce que je sais qu'il y a des lecteurs de la Bible dans la salle, quel est l'événement le plus incroyable rapporté par la Bible ? Alors là, c'est peut-être plus difficile parce que si on ne vit pas tous les jours des événements extraordinaires et incroyables, dans la Bible, qui est la parole de Dieu, il y a des tas de ce que l'on appelle des miracles. Parce que Dieu est le Dieu du miracle. Et est-ce que vous arrivez à en faire sortir un du lot ? Est-ce que pour vous, il y a un événement dans la Bible qui est encore plus incroyable que les autres ? Je vous laisse 10 secondes pour trouver quelque chose. Non, mais je veux pas de réponse. Chacun répond dans son cœur. Et puis on va lire quelque chose. On va ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean, s'il vous plaît. Et nous allons lire le récit de ce qui est l'événement le plus extraordinaire, le plus incroyable de toute la Bible. Jean, chapitre 20, verset 1. Alors vous qui avez une Bible, je vous invite à l'ouvrir et à lire avec moi, c'est important. Si vous n'en avez pas, le texte s'affiche sur le vidéoprojecteur. Jean, chapitre 20, verset 1. Le dimanche, Marie de Magdala se rendit au tombeau de bon matin, alors qu'il faisait encore sombre. Et elle vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent donc et allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se pencha et vit les bandelettes posées par terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le tombeau. Il vit les bandelettes posées par terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus n'était pas avec les bandes, mais enroulé dans un endroit à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris que d'après l'Écriture, Jésus devait ressusciter. Ensuite, les disciples repartirent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha pour regarder dans le tombeau. Et elle vit deux anges habillés de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et j'irai le prendre. » Jésus lui dit « Marie ». Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit cela. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Ce n'est pas le récit le plus extraordinaire de toute la parole de Dieu, cela ? Ce n'est pas la chose la plus incroyable dont vous n'ayez jamais entendu parler. Ce n'est pas la chose la plus incroyable que vous n'ayez jamais lue. Paul dira aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, « Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures, il a été enseveli et est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. » La résurrection de Jésus, mes amis, est la chose la plus extraordinaire qui n'ait jamais été rapportée à des êtres humains. Qu'est-ce que cette résurrection implique pour nous, les hommes? La résurrection de Jésus signifie qu'il est bien Dieu, qu'il est bien le Fils unique de Dieu, envoyé par son Père sur la terre pour mourir à notre place sur cette croix en rançon de nos péchés. La résurrection de Jésus signifie que son sacrifice a été accepté par le Père, qu'il l'agrée, que les péchés peuvent être pardonnés, que la mort, le diable, le mal, Satan a été vaincu sur la croix. Nos péchés, tes péchés, mes péchés peuvent être pardonnés parce que Jésus est ressuscité. Quelle chose incroyable! Le fait que Jésus soit ressuscité est la preuve qu'il peut tenir les promesses qu'il nous a faites, les promesses de salut, les promesses de guérison, les promesses de résurrection, d'éternité avec lui dans son ciel. Voilà ce que signifie la résurrection de Jésus-Christ. Et Paul, toujours aux Corinthiens, va affirmer quelque chose d'imparable. Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide. Et votre foi aussi. Mes amis, si Christ n'est pas ressuscité, je n'ai aucune bonne nouvelle à vous annoncer. Si Christ n'est pas ressuscité, je suis perdu. Si Christ n'est pas ressuscité, vous n'avez aucun chemin de salut. Tout est perdu. Tous les hommes vont vivre et mourir dans leur péché et être séparés de Dieu pour l'éternité. Si Christ n'est pas ressuscité, je n'ai rien de bon à vous annoncer cet après-midi. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, écrit Paul. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Paul déclare sans détour, et je vous déclare sans détour, que sans la résurrection de Jésus, votre foi est vaine. Que sans la résurrection de Jésus, la foi chrétienne n'a pas lieu d'être. La résurrection de Jésus est le fondement de la foi chrétienne. Si Jésus est ressuscité, la foi chrétienne est indispensable. Elle est indispensable. On ne peut pas faire autrement que d'y croire, d'y adhérer. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, elle est inutile. Elle ne mène à rien. Et cet après-midi, vous perdez votre temps en étant venu dans ce lieu. Un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alors moi, j'ai une seule question à te poser cet après-midi, qui est beaucoup plus importante que les trois que je t'ai déjà posées. Et pareil que pour les autres questions, je veux que tu y répondes dans ton cœur, parce que cela ne me regarde pas. Cela me concerne, mais cela ne me regarde pas. Crois-tu que Jésus est ressuscité? Si tu crois qu'il est ressuscité, tu crois aussi qu'il est mort, évidemment. Crois-tu que Jésus est ressuscité? La Bible témoigne de plusieurs résurrections. La Bible nous rapporte dans les textes, dans les témoignages qu'elle nous livre, plusieurs résurrections. Ces résurrections ont toujours été faites par la puissance de Dieu. Dieu est le seul à avoir cette capacité, cette puissance. Les résurrections dont nous parle la Bible ont été la plupart du temps réalisées par la puissance de Dieu, mais par l'intermédiaire de l'intercession d'un homme, de la prière d'un homme. Alors j'ai rapidement relevé toutes les résurrections dont la Bible rend témoignage. Élie a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta, toujours avec la puissance de Dieu. Ce n'est pas parce... Voilà, Élie n'avait pas de puissance en lui-même, il l'a fait par la puissance de Dieu. Élisée ressuscite le fils d'une femme de Sunem. Les ossements d'Élisée ressuscitent un homme. Étonnant cela. Les ossements d'Élisée ressuscitent un homme. Pierre ressuscite une femme appelée Tabitha. Paul ressuscite un jeune homme du nom de Tychus. Les autres résurrections sont réalisées par Jésus lui-même. Jésus ressuscite le fils d'une veuve de Naïn. Jésus ressuscite le fils de Jaïrus, le responsable de la synagogue de Capernaum. Et il ressuscite aussi Lazare, le frère de Marthe et Marie. Et puis quand même, il y a quelques autres résurrections qui nous sont rapportées par l'évangéliste Matthieu. L'évangéliste Matthieu nous rapporte qu'à la mort de Jésus, plusieurs croyants sont ressuscités et ils sont sortis des sépulcres où ils avaient été placés. Nous n'en connaissons pas le nombre. Donc en excluant le nombre de résurrections que nous ne connaissons pas concernant ces croyants ressuscités à la mort de Jésus, eh bien, il y a 8 résurrections et donc quelques autres dans tout le récit biblique. 8 résurrections. Alors, on peut trouver cela peu ou on peut trouver cela nombreux. C'est tellement incroyable, tellement extraordinaire. 8 résurrections dans tout le récit biblique. Et je le répète, au risque de vous fatiguer, quoi de plus incroyable qu'un mort qui revient à la vie ? Ils étaient bien morts. Ils étaient bien morts et ils sont revenus à la vie par la puissance de Dieu. C'est de la résurrection de Jésus que je vais vous parler particulièrement cet après-midi. Parce que comme je l'ai déjà dit, c'est cette résurrection qui nous importe, qui a des conséquences pratiques pour nous et pour notre éternité. La résurrection de Jésus est unique. on ne peut pas la comparer à toutes celles que je viens de citer. Premièrement, parce que Jésus est le seul à avoir annoncé par avance qu'il allait ressusciter, ce qui n'a été le cas d'aucun des autres. Tous les autres ne savaient absolument pas qu'ils allaient ressusciter. Jésus, lui, a annoncé sa résurrection. Matthieu chapitre 16, verset 21, j'ai noté le verset. Dès ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem, beaucoup souffrir de la part des anciens, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Ce n'est pas quelque chose qui a été improvisé. Ce n'est pas une surprise. Jésus savait qu'il allait mourir et ressusciter. C'était quelque chose de prévu, établi de toute éternité dans les plans divins. Quelque chose d'autre diffère entre la résurrection de Jésus et la résurrection des autres hommes et des autres femmes dont la Bible parle. Jésus est ressuscité avec un corps différent de celui des autres hommes qui sont ressuscités. Avec un corps différent. Les autres ressuscités ont retrouvé leur corps corruptible et mortel, le même que le vôtre, le même que le mien, celui qui fait mal quand on se pince, le même. Et ils sont morts à nouveau, à un moment ou à un autre. Nous ne savons de quelle manière, dans quelles circonstances, mais ils sont morts à nouveau. Jésus, lui, il est ressuscité pour l'éternité, avec un corps différent du vôtre et du mien. Un corps différent. Colossiens chapitre 1, verset 18, c'est la parole vivante que je cite. Il est le premier-né ressuscité des morts. C'est en lui que commence une autre humanité. Partout, en toutes choses, il est au premier rang. Sa mort, sa résurrection, mes amis, nous ouvre à nous, êtres humains, faits de chair et d'os, mais aussi d'âme et d'esprit, des perspectives incroyables et extraordinaires. Jésus a ouvert le chemin de la mort à la vie pour tous ceux qui croient en lui, pour tous ceux qui se placent au bénéfice du sang qu'il a versé sur la croix. Cette résurrection que Jésus a vécue, il nous la propose. Il te la propose cet après-midi. Cette transformation du corps, il nous la rend accessible. N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire et de merveilleux? Les apparitions de Jésus après sa résurrection nous donnent un aperçu de ce qu'est ce corps ressuscité. Nous l'avons lu déjà dans le texte de l'évangile de Jean. Ils se trouvaient rassemblés. Les portes étaient fermées. Les portes de la maison étaient fermées. Et voici que Jésus va apparaître au milieu d'eux. Et pourtant, ils vont aussi voir ses blessures. Pourtant, ils vont aussi pouvoir le toucher. Quelle chose étonnante. Ses blessures étaient toujours visibles. Ses disciples pouvaient le toucher physiquement. Mais il pouvait se déplacer sans effort, apparaître et disparaître à volonté, comme passer au travers des murs. Quelque chose d'extraordinaire qu'il est impossible à notre corps de réaliser. Et il n'est pas apparu qu'à une seule personne, un seul illuminé, un seul fou. Absolument pas. Il est apparu à ses disciples. Et vous l'avez lu comme moi dans ce passage de Jean, mais les disciples au début, mais ils n'en reviennent pas. Ils n'y croient pas. Lorsque Marie vient leur dire, mais il n'y a plus le corps de Jésus. Ils y vont en courant. J'aime bien, il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Ils vont voir en courant. Ils n'y croient pas. Lorsque Jésus apparaît à Marie, elle n'y croit pas. Elle croit que c'est le jardinier. Jésus est bel et bien ressuscité. Toujours dans 1 Corinthiens 15, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Il va cheminer un instant avec deux disciples qui se rendent dans la ville d'Emmaüs. Et au moment où ils le reconnaissent, il disparaît de devant eux. Il apparaît à Thomas et il va dire, « Thomas, mets tes mains dans mon côté, touche les trous dans mes mains, touche-moi. » Il va apparaître à ses disciples qui vont le prendre pour un esprit. Et il va leur dire, mais touchez-moi. Il va manger avec eux du poisson, un rayon de miel. Non, un corps exceptionnel, capable d'apparaître, de disparaître, mais aussi capable d'être touché, capable de manger, capable d'être enserré par Marie. Ne me retiens pas, ne me retiens pas, lui dit Jésus. On imagine Marie, je ne sais pas moi, saisissant son Seigneur ou étant à ses pieds et lui tenant les jambes fermement. Marie, laisse-moi aller. Un corps extraordinaire. Et pourquoi est-ce que nous sommes concernés par cela? Parce que la Bible affirme que les croyants aussi ressusciteront. Et que le corps que nous recevrons, mes amis, est qualifié de glorieux, semblable à celui du Christ ressuscité. Le même corps que celui de Jésus. Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, parole vivante encore. Mais pour nous, notre patrie est dans les mondes célestes. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là viendra pour nous sauver le Seigneur Jésus-Christ. Nous l'attendons de toutes les fibres de notre être. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux. Je répète, il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. La promesse, elle est pour moi. La promesse, elle est pour toi. Si tu ressuscites, si Jésus te ressuscite parce que tu lui appartiens, tu auras le même corps que lui. Le même corps que lui. Amen. À l'époque où Paul écrit aux Corinthiens, la majorité des Grecs ne croyaient pas en la résurrection du corps après la mort. pour eux, la vie dans l'au-delà, la vie après la mort ne concernait que l'âme. D'après leur philosophe, la véritable personne, c'était l'âme. Et c'était elle qui était libérée au moment de la mort et qui entrait dans l'éternité, dans un état éternel. La Bible, nous l'avons lu, affirme au contraire que notre âme et notre esprit auront un corps glorifié, un corps incorruptible, immortel, mais auront bel et bien un corps. Jésus mange, Jésus boit, Jésus est touché, Jésus touche. Mais Jésus aussi apparaît et disparaît. Un corps glorifié. Il y a là quelque chose de mystérieux et d'inenvisageable pour notre esprit et pour notre façon de voir les choses. Mais c'est une réalité. Toujours dans 1 Corinthiens 15, il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. La trompette sonnera, alors les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. C'est pas de la science-fiction, hein. C'est pas de la science-fiction. C'est la vérité de la parole de Dieu. Crois-tu que Jésus est ressuscité? Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité? Si tu crois qu'il est ressuscité, alors tout cela va devenir réalité pour toi. J'ai dit que les Grecs de l'époque de Paul ne croyaient pas en la résurrection du corps, mais les Juifs aussi. Les Juifs eux-mêmes, et notamment les Sadducéens, un des principaux groupes religieux juifs, avec les Esséniens, les Pharisiens, mais les Sadducéens particulièrement, niaient la résurrection. Parce qu'ils étaient attachés à la Torah, parce qu'ils étaient attachés à l'enseignement de Moïse, parce qu'ils étaient attachés aux cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Et ils trouvaient que la résurrection, c'était un enseignement farfelu. Parce que Moïse n'en parlait pas. Et ils n'acceptaient pas cela. Actes chapitre 4, verset 1. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Qu'est-ce que tu penses de ce que je suis en train de partager avec toi cet après-midi? Qu'est-ce que tu penses de ce que la Bible annonce? Tu trouves que c'est une folie? Tu trouves que c'est farfelu? Tu trouves que c'est n'importe quoi, que c'est de la science-fiction, ou tu crois que c'est la vérité? C'est à toi de décider. C'est à toi de l'expérimenter. Aujourd'hui, les croyances divergent. Beaucoup croient au néant après la mort. Mais le néant, l'annihilation de ce qui nous constitue. Ils ne croient pas à l'éternité de l'âme, de l'esprit, encore moins à une possibilité de résurrection, de retrouver un corps. D'autres croient en la réincarnation, une espèce de cycle sans fin. D'autres croient en un paradis, mais dont il faudrait payer l'entrée, acquérir les droits d'entrée, par quelques sacrifices, par quelques bonnes œuvres, quelques dons de soi, quelques pèlerinages, quelques prières régulières. qu'est-ce que tu crois, toi ? Parce que l'important, face à l'éternité, face à Dieu, ce n'est pas ce que les autres croient. Parce que chacun rendra compte pour lui-même, nous dit la Bible. Que crois-tu, toi ? Que crois-tu ? Est-ce que tu crois que Jésus est ressuscité ? Est-ce que tu le crois ? La Bible affirme l'immortalité de l'âme et de l'esprit. La Bible affirme que qui tu es, ton âme, ton esprit, retrouveront un corps à la résurrection. Ou alors, ton corps actuel sera transformé en un instant. Daniel, chapitre 12, verset 5, j'ai relevé la version « Parole de vie ». Beaucoup de gens qui dorment dans la poussière de la tombe se réveilleront, les uns afin de vivre avec Dieu pour toujours, les autres afin de vivre dans la honte et le malheur pour toujours. C'est Paul qui nous enseigne la différence entre notre corps et celui que nous aurons si nous ressuscitons, si nous croyons que Jésus est ressuscité, si nous expérimentons le pardon des péchés et le salut en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 42. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible. Et il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. Amen. Mais moi, lorsque je lis cela, cela me remplit de joie. Me remplit de joie de savoir que j'ai la possibilité. Et moi, j'ai saisi cette opportunité en Jésus-Christ, d'avoir le salut, d'être réconcilié avec Dieu mon Père et d'avoir cette assurance que je vais ressusciter avec un corps glorieux, glorifié, parfait, incorruptible et que mon âme et mon esprit, qui je suis, trouveront une nouvelle enveloppe pour être en relation avec ce nouveau monde que Jésus nous propose, avec tous les autres qui auront fait cette expérience et qui sont mes frères et sœurs en Christ. Si tu as accepté Jésus comme sauveur, réjouis-toi. Réjouis-toi de cette perspective qui est devant nous. Si tu ne l'as pas encore fait, pose-toi la question. Crois-tu que Jésus est ressuscité ? Veux-tu croire que Jésus est ressuscité ? Ce qui est corruptible et passager ne peut avoir accès au ciel. Nous aurons un corps glorifié. Mais si les Grecs pensaient, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils pensaient, mais si on pense simplement à un esprit qui accède à l'éternité, alors je ne sais pas, peut-être flottant de vent cosmique en vent cosmique, quelque chose de très éthéré, de très immatériel. On va faire une dernière lecture ensemble dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, versets 1 à 7. Apocalypse 21. Ah, j'ai pas prévu le texte. Vous êtes obligés d'ouvrir votre Bible. Apocalypse 21. Parce que non, notre nouveau corps, ce nouvel être que nous allons être à la résurrection, il va pas flotter dans l'espace. Hein ? Lisons. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Puis il me dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. » Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Amen. La porte est encore ouverte, mes amis, cet après-midi. Il est encore possible pour toi de devenir héritier de ces choses. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, de devenir héritier de ces choses. Jean 14, 6, vous l'avez affiché derrière moi, c'est la version parole vivante que j'ai relevée. « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne parviendra jusqu'au Père sans passer par moi. » Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre possibilité. Un seul est mort sur la croix, un seul a payé le prix, la rançon de tes péchés. Un seul a satisfait la justice de Dieu. Un seul est ressuscité. C'est Jésus-Christ. Crois-tu que Jésus est ressuscité? Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Apocalypse 22, 7. Je te dis que cet après-midi, c'est encore possible pour toi, parce que je suis là, parce que ceux qui ont fait la paix avec Jésus sont encore là. C'est donc le signe qu'il n'est pas encore revenu. Qu'en sera-t-il dans une heure, dans un mois, dans un jour? Je n'en ai aucune idée. Voici « Je viens bientôt. » C'est ce que te dit Jésus. On va prier ensemble, si vous voulez bien. Seigneur, merci de ta patience. Seigneur, merci de ton amour. Merci d'être mort à la croix. Merci d'être ressuscité. Merci parce que cela nous ouvre des perspectives incroyables. Et moi, je confesse que je crois que tu es ressuscité, que je crois que tu vas venir me chercher et que je vais ressusciter pour passer l'éternité avec toi sur cette nouvelle terre que tu vas créer ou que tu vas restaurer. En tout cas, sur cet endroit merveilleux et parfait. Ma prière cet après-midi, c'est que si quelqu'un n'a pas encore fait cette expérience, si quelqu'un est encore séparé de toi, si quelqu'un n'est pas encore certain de son avenir après la mort, oh, qu'il puisse se décider pour toi cet après-midi. Parce que c'est vrai que tu viens bientôt. C'est vrai que tu viens bientôt. Alors je voudrais simplement, alors que nous avons tous les yeux fermés, à part moi parce que je vais prier pour vous, je voudrais simplement lancer un appel et demander cet après-midi s'il y avait quelqu'un qui voulait croire que Jésus est ressuscité et qui voulait faire l'expérience du pardon des péchés, reconnaître que jusqu'à présent, il a vécu sans Dieu, sans se préoccuper de ce que Dieu voulait, de ce qui lui faisait plaisir, de ce qu'il souhaitait, de ce qui lui faisait de la peine, de ce qui le blessait. Et cet après-midi, est-ce que quelqu'un veut faire la paix avec Dieu ? Est-ce que quelqu'un veut recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur et avoir l'assurance qu'il ressuscitera au retour de celui-ci ? Parce que s'il est mort et s'il est ressuscité, si après être apparu à toutes ces personnes, à tous ses disciples, il est remonté au ciel, il nous dit aussi, voici, je viens bientôt, parce qu'il va revenir nous chercher. Est-ce que quelqu'un cet après-midi veut faire la paix avec Dieu ? Simplement, vous levez la main à votre place et je prie pour vous. Ce n'est pas devant moi que vous levez la main. Moi, je n'ai aucun pouvoir pour vous, mais j'ai la capacité de prier pour vous. Et si vous levez la main, je vais le faire. Est-ce que quelqu'un cet après-midi veut faire la paix avec Dieu en Jésus-Christ ? Non, personne ? Je n'insiste pas. Seigneur, merci de bénir chacun. Merci de travailler les cœurs encore. Et merci de l'avenir pour ceux qui t'appartiennent. Merci de cet avenir merveilleux qui nous attend. Amen.